Aujourd'hui s'ouvre à Saint-Malo la 29e édition du Festival Étonnant Voyageur. 284 auteurs sont attendus, parmi lesquels un prix Nobel de littérature, Jean-Marie Gustave Le Clézio, un académicien, Dany Laferrière, un écrivain culte, Armistead Maupin, mais aussi Asli Erdogan, Enki Bilal et notre invité qui est une luciole dans la nuit. Bonjour Patrick Chamoiseau.
Bonjour.
Merci infiniment de vous être arrêté dans le studio des matins du samedi avant de vous rendre à ce festival à Saint-Malo. Patrick Chamoiseau, vous êtes écrivain, vous êtes l'un des invités importants de ce festival. Quand je dis luciole dans la nuit, on dit bête à feu en créole, je crois, puisque vous êtes né en Martinique. La luciole, ça vous correspond bien, ça vous va comme qualificatif?
Ah oui, moi je pense que c'est un qualificatif qu'on peut appliquer à tous les artistes. D'abord parce que l'artiste, dans son travail, dans son œuvre, dans ce qu'il produit, ne donne pas de solution. Hein, pour bien comprendre l'idée, c'est une idée qui vient de Pasolini, hein, qui disait que sous le fascisme italien, la nuit était tellement obscure que même les lucioles avaient disparu. Et c'est vrai que la luciole, dans la culture créole, elle n'éclaire pas le chemin. On la voit briller dans la nuit, mais elle n'indique pas de chemin, on ne peut pas s'éclairer avec une luciole. En revanche, elle réenchante la nuit, elle permet d'une certaine manière à l'espérance de se maintenir. Ce qui fait que c'est important, l'œuvre d'art aujourd'hui ne donne pas de recettes, ne n'indique pas de chemin, ne donne pas, je dirais, de système de pensée ou de pensée de système, d'explication définitive. Au contraire, mais ça réveille l'imagination, ça réveille l'imaginaire et ça nourrit les assises de l'esprit. Donc il vaut mieux une flambée de luciole qu'un gros projecteur qui vous indique une route.
Eh bien, vous serez une flambée de luciole au Festival Étonnant Voyageur qui va s'attacher pendant 3 jours à refaire le monde, à inventer le futur, à écrire la guerre, à revisiter la francophonie, à célébrer l'esprit de mai 68 et les puissances de l'imaginaire, et aussi à oser la fraternité. Osons la fraternité, c'est un livre que vous avez dirigé, vous avez rassemblé les contributions d'une trentaine d'écrivains, dont vous, qui ont écrit des textes aux côtés des migrants, et nous allons bien sûr y revenir. Juste un mot sur ce festival Étonnant Voyageur, que représente-t-il pour vous? Vous êtes un habitué, hein, Patrick Chamoiseau, du festival.
Oui, on le connaît depuis très longtemps. Je pense que le festival de Michel Lebris, c'est quelqu'un qui a une très très grande sensibilité et qui perçoit un petit peu les évolutions du monde et les évolutions de la littérature. Donc il a commencé par un festival de voyageurs. C'est intéressant parce que les grands voyageurs, les grands écrivains voyageurs, ce sont ceux qui d'une certaine manière défrichaient les routes. C'était pas des conquérants, c'était pas des conquistadors, c'était pas des colonialistes, c'était des artistes qui allaient vers l'horizon, vers les paysages, vers les peuples, vers les réalités, avec un appétit de rencontre, un appétit de connaissance, un appétit de renouvellement de leur vie et de leur perspective. Donc ça, c'est le point de départ de Saint-Malo, le monde qui s'ouvre. Et puis, à mesure que la sensibilité de Lebris, qui a toujours été très attentif, s'est approfondie, il nous a très très vite contactés. Lorsqu'on a publié L'éloge de la créolité, lorsque Glissant a publié Poétique de la relation, lorsqu'il a publié le roman Tout le monde, etc. Il a aussi, il s'est intéressé à cette autre manière d'envisager le monde qui n'est pas simplement par le voyage mais qui est par l'idée qu'on peut vivre à une échelle qui n'est plus ma terre, mon territoire, ma langue, ma culture, mon Dieu, ma cuisine, mais toutes les terres, toutes les histoires, tous les dieux, toutes les langues, toutes les perspectives. Comment vivre à une échelle où le vivre ensemble se fait en relation avec la totalité du monde. Donc là, c'est une grande perspective nouvelle qui s'est ouverte pour la littérature et que le Festival de Saint-Malo accompagne très bien et illustre très bien.
C'est dans ce cadre-là, Patrick Chamoiseau, que réfléchir à la situation des migrants ou votre propre sensibilité à la situation des migrants est une droite ligne de ce poétique de la relation que vous avez développé avec Glissant.
Ah bien sûr, puisque on a dans cette affaire des migrants, on a une situation humanitaire à laquelle il faut réagir, c'est-à-dire que des milliers de personnes meurent, donc il y a une urgence. On a une problématique politique, il nous manque une politique mondiale de l'hospitalité, parce que ça a une telle ampleur et ça ne va pas s'arrêter de sitôt qu'il faut véritablement prendre ce phénomène à une échelle qui serait l'échelle qu'on accorde aux problématiques du climat, une sorte de COP21 des migrations qui réunissent tous les États et tous ces États ensemble ont le devoir de définir une éthique de l'hospitalité à l'échelle mondiale, qu'on puisse à organiser. Sinon, si on ne le fait pas, on aura des milliers de personnes qui vont continuer à mourir sur des barbelés, dans des océans, devant des murs, etc. Donc ça, c'est deux problématiques. Mais il y a une autre problématique qui est intéressante, c'est que je me dis que il y a quelque chose de particulier pour qu'il y ait autant d'énergie, qu'il y ait une telle densité, une telle force dans ces flux migratoires, ces gens, ces enfants, ces femmes qui risquent leur vie, qui savent que ça ne sera pas facile, qu'ils seront humiliés, qu'ils vont perdre une partie de leurs doigts et qui continuent comme ça inlassablement à venir. Je me dis qu'ils ont déjà une vision du monde qui n'est plus la nôtre. C'est-à-dire que nous, nous sommes encore enfermés dans nos frontières, nos territoires, nos immobilités, alors que eux, ils ont déjà une autre approche, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus mobile et beaucoup plus élargie. Alors, je me suis dit, ils sont habités par ce que Glissant appelle la mondialité. Alors, c'est pas la mondialisation économique néolibérale qui est une catastrophe, mais c'est simplement le fait que les cultures, les civilisations, les individus, les mobilités, les accélérations technologiques font que, quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve aujourd'hui, l'horizon est beaucoup plus élargi et que le monde est beaucoup plus présent. Et l'échelle de réalisation de soi et l'échelle d'extension de ses propres désirs et de ses pulsions, d'une certaine manière, ne se limite pas au territoire dans lequel on est, mais s'ouvre un peu comme ces écrivains voyageurs qui avaient l'espèce de préscience du monde, ce désir imaginant du monde. Les migrants ont une vision du monde différente où les gens pourront aller sans que les frontières ne leur coupent la tête.
Une vision fraternelle, douce, cette tentative de réhabilitation d'un mot qui semblait avoir perdu de sa vigueur,
ah oui,
voire de son sens, Patrick
ah oui.
Chamoiseau.
La difficulté dans l'imaginaire d'Homo sapiens, Homo sapiens est constitué en clans, en tribus, en communautés. Et chaque fois qu'une communauté se définissait, qui va donner les états-nations, ça se fait avec des absolus. Donc on a un absolu linguistique, on a un absolu mythologique, on a un absolu historique, etc. C'était ma terre, ma langue, mes ancêtres qui sont les meilleurs, les plus beaux, les plus justes, ce sont les êtres humains. D'ailleurs, toutes les communautés archaïques se disent « nous sommes les êtres humains » et puis les autres, on ne sait pas ce que c'est.
Bon. Souvent, c'est les barbares. Hein, les
donc, c'était des barbares. Donc, ce qui est important, c'est que à partir de ces absolus, on avait organisé d'une certaine manière le rapport à l'autre. Et aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Nous sommes dans des systèmes relationnels, donc on ne peut plus aujourd'hui envisager un absolu linguistique en ignorant les autres langues. Personne ne peut sauver sa langue en laissant mourir les autres. On ne peut plus imaginer un absolu historique en disant voilà l'histoire de France et tout ce qu'il y a autour concernant les Antilles, l'Afrique, machin, on peut pas interférer. On est sorti de ces absolus-là et on entre dans des structures relationnelles et c'est ça qui est le plus important pour nous. Dans le temps passé, l'individu était maintenu à très basse intensité. La communauté lui donnait un prêt-à-porter existentiel, une morale, des valeurs, des principes, un comportement, une sexualité, etc. Aujourd'hui, l'individu est dépris des corsets communautaires et il se retrouve dans une perspective où ce qu'il a à ériger et ce qu'il a à vivre et ce qu'il a à construire en termes personnels, il pioche dans la totalité du monde. En plus, avec les accélérations technologiques, on a un espace-temps qui est démultiplié, qui est pratiquement sans limite. Et là, c'est une situation qui est à la fois exaltante, mais aussi angoissante.
Patrick Chamoiseau, en 2009, Régis Debray avait écrit un livre qui s'intitule encore « Le moment fraternité », réhabilitant lui-même ce terme qui eut un sens il y a quand même de nombreuses années et il voulait effectivement le remettre au goût du jour. Je voudrais vous proposer d'écouter Régis Debray, il était l'invité de Réplique sur France Culture, c'était en 2009, écoutez ce qu'il dit de cette fraternité.
La fraternité, c'est ce qui transforme une détresse en projet, une humiliation en fierté. La fraternité est un retournement de détresse dans une action commune. Le groupe n'est pas une réalité métaphysique, c'est un certain rapport pratique des hommes à un objectif. Ce n'est pas la famille naturelle, c'est la famille d'élection, non pas l'hérédité, l'héritage choisi, et donc la main tendue à l'inconnu au risque de sa propre vie.
Dans « Osons la fraternité », le terme « osons » est important. Parce que, Patrick Chamoiseau, c'est justement la mise en acte de chacun d'entre nous. C'est ce que dit Régis Debray dans l'archive qu'on vient d'entendre. Il ne s'agit pas d'opposer les réalistes aux doux rêveurs, il s'agit de faire quelque chose nous-mêmes. « Osons », c'est « prenons les choses en main ». Il y a cette dimension de l'agir important à travers la poésie.
Oui, je pense que c'est important. Il nous faut dépasser les absolus initiaux des communautés, qu'il n'y a qu'une espèce qui nous concerne, c'est l'espèce humaine, et que nous nous sommes reliés tous ensemble dans une planète qui est une, un écosystème qui est un. À partir de là, la notion de fraternité, elle est nécessairement ouverte, elle est relationnelle. Et c'est pourquoi, plutôt que de prendre une valeur que j'isolerais, je dirais, bon, fraternité, j'accorde plus d'importance à la notion de la relation. La relation, ça veut dire que je suis en contact, bien sûr, avec les autres humains. Et dans cette relation avec les autres humains, je veille à la fois à me réaliser, mais aussi à ce que l'autre se réalise. Donc, il n'y a relation que lorsqu'il y a, je dirais, un épanouissement réciproque. S'il n'y a pas d'épanouissement réciproque, on n'est pas en relation, on est sous relation, c'est-à-dire les rapports de domination, les rapports de conquête, c'est de la mise sous relation. Mais la mise en relation, on a le souci de l'autre et l'autre est censé avoir le souci de soi. Ce qui fait que dans le simple fait relationnel, on a toutes les valeurs possibles, la fraternité, l'amitié, la compassion, la charité, le don de soi, tout est là, tout est dans la relation et ça c'est beaucoup plus important.
Mais est-ce que cette relation ou cet ensemble de valeurs relationnelles dont vous parlez, Patrick Chamoiseau, ne se heurte pas aujourd'hui et peut-être plus qu'avant à la difficulté quotidienne, à ce qu'on entend en général partout autour de nous, aux difficultés de l'accueil, aux difficultés de l'hospitalité, ce qui fait la spécificité de notre moment?
Ah bien sûr, c'est-à-dire que là, quoi que c'est Héraclite qui le disait, quand on augmente l'ombre, la lumière devient plus éclatante et quand la lumière augmente, l'ombre devient plus épaisse. Donc on peut pas dissocier pourquoi il y a autant de repli, de crainte, d'enfermement, d'intégrisme, de simplification meurtrière. C'est simplement parce que le fait relationnel est de plus important. Donc on a une réalité qui fait que la relation est là et qu'on ne peut plus vivre en solitude. On peut plus se dire je suis dans mon état-nation, concevoir l'Europe comme une solitude, concevoir la France comme une solitude qui serait exempte des misères du monde. D'autant que toute la force, l'espace occidental est le plus souvent à l'origine des différents malheurs que ces gens ont vécu. Donc à partir du moment qu'on a compris qu'on est justement dans une situation relationnelle, le monde est un écosystème profondément dynamique et profondément relationnel, nous devons changer toute notre perception. Alors, peut-être pas entrer avec des notions de valeurs. Là, on a utilisé la fraternité simplement pour leur dire, mais attention, c'est pas un flux comme ça, obscur, qui vient submerger l'Europe. Ce sont des êtres humains, ce sont des femmes, ce sont des enfants. Et non seulement ce sont des gens comme nous, ils font quelque chose que toute l'espèce humaine a fait tout au long de son existence.
Et qu'on pourrait peut-être faire nous-mêmes aussi.
Et qu'à un moment donné, on peut être amené pour un accident nucléaire, pour je ne sais quelle catastrophe, on peut être soi-même amené à se retrouver migrant. Donc il y a une fraternité de situation que nous ne pouvons pas ignorer. Et ce serait une folie aujourd'hui que de ne pas se reconnaître dans ceux qui meurent en Méditerranée.
Alors vous disiez, Patrick Chamoiseau, tout à l'heure, que les artistes n'étaient pas là pour tracer le chemin. Que peuvent les lucioles face à cela, cette bataille qui est à la fois politique et poétique? En quoi la question migratoire est-elle un sujet poétique
ça, c'est
et que peuvent les écrivains?
Ça, c'est la question la plus importante. Moi, je pense que l'art n'est au service de rien. L'artiste est libre. S'il n'y a pas de liberté totale, il n'y a pas de création. En revanche, il y a une conscience de la création qui fait que on ne peut pas déserter certaines urgences. Mais si on considère la question migratoire, si on se dit qu'en plein 21e siècle, devant le continent le plus riche de la planète, des milliers de personnes sont en train de mourir et on est en train de tergiverser, de faire des lois scélérates, etc., je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans l'imaginaire politique et dans l'imaginaire contemporain. On accepte une catastrophe comme celle-là, exactement comme pendant plusieurs siècles on a accepté la traite des nègres, c'est qu'on est revenu à un obscurcissement qui fait qu'on ne voit plus l'humain. Donc l'imaginaire s'était affaibli, les assises mentales se sont délitées, il nous manque quelque chose. Et qu'est-ce qui réveille l'imaginaire? Qu'est-ce qui nourrit la pensée du monde et la pensée de l'autre? C'est véritablement la stimulation artistique et esthétique. Alors qu'est-ce qui s'est produit? Le néolibéralisme a tellement dépolitisé les choses et tout traité par l'économie, c'est quand on a écarté tout le reste, on a appauvri considérablement l'approche que l'on a des choses et on peut perdre très très rapidement de vue l'humain. Et l'approche artistique et esthétique, c'est véritablement une approche qui restitue immédiatement l'humanité au cœur du problème. Les migrants, c'est pas une affaire économique, c'est pas une affaire de transfert de population, d'évasion, c'est d'abord une affaire de gens qui sont en train de mourir. Et dans le recueil Osons la fraternité, on voit bien comment les écrivains abordent. C'est pas un flux, un Disney, ce sont des personnes, ce sont des regards, ce sont des vies, ce sont des sensibilités. Chaque fois qu'on est dans l'exercice artistique, on est immédiatement au cœur de l'humain. Normalement, la politique, la fonction de la politique, c'est de s'occuper de l'humain. Faire en sorte que nous soyons mieux humains, que nous soyons protégés, etc. Mais si la politique s'est réduite à l'économie, on perd de vue la notion de l'humanité. Et lorsqu'on a recours à l'approche artistique, esthétique et celle de la littérature, on revient immédiatement au cœur de ce qui fait le grand politique, c'est-à-dire on est au cœur de l'humanité. Et ce que peut la littérature, c'est remettre cette question au cœur d'une question qui est simplement, est-ce qu'on peut laisser mourir des êtres humains comme ça ?
Ce que vivent les migrants relève d'une seule aventure très ancienne qui continue encore. Notre aventure humaine. Aucun humain ne saura en être spectateur ou s'exonérer du poids de ses souffrances. Il n'y a qu'un seul film. La fin sera la même pour tous. Dès lors, tous les combats sont liés. Chacun se retrouve, pour ainsi dire, réfugié dans chacun.
Les poètes déclarent qu'aller venir et dévirer de par les rives du monde sont un droit poétique. C'est-à-dire une décence qui s'élève de tous les droits connus visant à protéger le plus précieux de nos humanités. Qu'aller venir et dévirer sont un hommage offert à ceux vers qui l'on va, à ceux chez qui l'on passe.
Et que c'est une célébration de l'histoire humaine qui est d'honorer la terre entière de ses élans et de ses rêves.
Chacun peut décider de vivre cette célébration. Chacun peut se voir un jour acculé à la vivre, ou bien à la revivre. Et chacun, dans sa force d'agir, sa puissance d'exister, se doit d'en prendre le plus grand soin. Les poètes déclarent que jamais plus un homme sur cette planète n'aura à fouler une terre étrangère.
Patrick Chamoiseau, on entendait là un extrait lu par Flavia Coelho et Arthur Ashe l'année dernière, en juin 2017, en public, au Trianon, de votre déclaration des poètes.
Ça change tout, hein.
À la fin de Frères migrants, qui était votre livre précédent, et qui est sous la forme d'une adresse poétique, d'un appel, peut-être qui fait suite d'ailleurs à ce que vous aviez commencé de faire avec Édouard Glissant, Quand les murs tombent, on s'en souvient, L'identité nationale hors la loi, ou encore L'intraitable beauté du monde, qui était une adresse à Barack Obama. L'adresse, c'est un mode littéraire, un genre littéraire particulier qui peut s'adresser justement au public et qui fait qu'ensuite le public pourra s'emparer de ce que vous dites dans ces déclarations.
Oui, moi je crois que dans le monde que nous avons à construire, parce que le monde est à construire, il s'impose à nous dans ses réalités les plus terribles et en même temps il est d'une telle plasticité que la moindre action, que la moindre décision, que la plus forte volonté peut aussi intervenir pour construire. Donc nous subissons un monde que nous sommes en train de construire. Donc c'est ça cette dynamique. Donc il ne faut pas craindre d'intervenir dans le tissu vibratile du monde. Et bien sûr, il y a les experts, les historiens, les sociologues, l'approche économique, les nécessités politiques, mais il y a aussi l'approche poétique. Et c'est bien qu'on puisse comme ça, sans pouvoir, sans puissance, sans disposer d'armée ni de char, simplement que les poètes puissent dire non, d'un autre point de vue, qui est un point de vue essentiellement poétique, c'est-à-dire dans ce que l'humain a de plus poétique, c'est-à-dire tout ce qui échappe à la nécessité, à la survie, l'amitié, la compassion, l'amour, la fraternité, la musique, la danse, la sensibilité, l'imagination, la participation, je dirais, sensitive à la totalité de l'existant, à partir de cette instance-là, qui est aussi valable que toutes les autres instances, qu'elles soient politiques ou scientifiques, nous pouvons intervenir dans la matière du monde et diffuser quelque chose, un peu comme on sème comme ça, à tout vent, et puis en espérant que ça va s'implanter dans des esprits, des imaginaires, des désirs, et que ça va créer un mouvement qui nous sera favorable.
Histoire de faire advenir du quand même malgré tout. Restez avec nous, Patrick Chamoiseau, puisqu'il est déjà 7h30 sur France Culture et c'est l'heure des titres de l'actualité. présenté par Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour à toutes et à tous. La statistique qui choque l'Amérique ce matin. Depuis le début de l'année, plus de morts par balle dans les lycées du pays que dans les rangs de son armée. Hier, c'est à Santa Fe, Texas, qu'un lycéen de 17 ans a tué 10 personnes et en a blessé 10 autres. Donald Trump déplore une attaque horrible et adresse ses prières aux familles de victimes. En Italie, les militants du mouvement 5 étoiles approuvent massivement le programme de gouvernement anti-système avec l'extrême droite, 94% en faveur de cet accord qui alarme déjà les économistes européens. Aujourd'hui et demain, c'est la base militante de la Ligue d'extrême droite qui doit s'exprimer. Un clergé catholique à la déroute au Chili. Tous les évêques du pays ont remis hier leur démission au pape François. Leur institution a couvert pendant des décennies des scandales de pédophilie passés sous silence dans un premier temps, puis dénoncés par le pape lui-même qui a présenté des excuses aux victimes chiliennes. Le nom change, mais le fond reste. Marion Maréchal Le Pen ne veut plus qu'on l'appelle par le nom de son grand-père et de sa tante. Désormais, ce sera donc Marion Maréchal tout court sur les réseaux sociaux, en tout cas un ripollinage qui laisse entrevoir les ambitions de l'ex-député proche des identitaires, nous dira Stéphane Robert dans le journal de 8h. Une bonne nouvelle pour l'industrie automobile en France, ce n'est pas si courant. Le groupe Daimler investit 500 millions d'euros dans son usine Smart de Hambach en Moselle. On y fabriquera le premier modèle SUV 100% électrique et made in France de la marque Mercedes. Et puis jour de palmarès à Cannes, on connaîtra ce soir la Palme d'Or 2018 et à 8h nous appellerons Antoine Guyot sur la croisette.
Eh bien à tout à l'heure, 8h, Camille Manière à suivre d'ici le journal. À 7h40, la fabrique médiatique sur les journalistes face au conflit israélo-palestinien. Nous serons notamment avec la grande figure Charles Anderlin. Et puis dans un instant, la suite de notre entretien avec l'écrivain Patrick Chamoiseau.
Tous les jours sur France Culture à 11h, Culture Monde, le magazine sans frontières, Florian Delorme.
La semaine prochaine, Culture Monde prend le pouls d'un certain nombre de démocraties du monde. Alors que nous approchons ou sortons juste d'échéances électorales de première importance, l'Amérique latine va-t-elle poursuivre son virage à droite ? Les vieilles démocraties parlementaires européennes deviennent-elles ingouvernables ? Qu'attendre des processus électoraux dans un Moyen-Orient en plein chaos ? Autant de questions que nous évoquerons la semaine prochaine dans notre série consacrée à quelques élections sous haute tension.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h et sur franceculture.fr.
Invité de cette première heure, Patrick Chamoiseau, écrivain, invité du Festival Étonnant Voyageurs de Saint-Malo qui ouvre ses portes aujourd'hui. Et Patrick Chamoiseau, vous avez réuni les contributions d'une trentaine d'écrivains, dont vous, dans un livre intitulé « Osons la fraternité, les écrivains aux côtés des migrants ». On y trouve Tahar Ben Jelloun, Patrick Boucheron, Mireille Delmas-Marty, Ananda Devi, Laurent Godet, Claudio Magris, Achille Mbembe, Léonora Miano ou encore Christiane Taubira. Voilà toutes les contributions qu'on retrouve dans ce livre « Osons la fraternité ». Mais j'aimerais qu'on poursuive cet entretien en entrant par des questions sur la langue, juste après ça.
Mwen dou monsieur Normati, le bon mieux que boyo devo, c'est leur mouri police vini. Mwen dou monsieur Normati, qui a ici cap d'image en New York sans fusil. Mwen dou monsieur Normati, le bon mieux que boyo devo, c'est leur mouri police vini. Mwen dou monsieur Normati, qui a ici cap d'image en New York sans fusil. Mwen dou monsieur Normati, le bon mieux que boyo devo, c'est leur mouri police vini. Tande!
Côté mouyo, that one day we all go. So keep your head to the sky.
Le mélange des langues entre Wyclef Jean et Lauryn Hill avec ce sang Fezzy. Patrick Chamoiseau, pour vous demander si la langue fait partie de cette bataille politique et poétique, si la langue est ce qui facilite l'imaginaire ou si la langue est aussi un combat à mener d'une façon ou d'une autre.
Oui, il y a deux manières de l'aborder. Il y a ce qu'en fait la mondialisation économique, donc la langue devient un véhicule de domination, etc., etc., avec le sentiment des absolus linguistiques, l'idée qu'une langue puisse avoir une vocation à l'universel, le sentiment qu'on peut sauver une langue en laissant mourir les autres, etc. Bon, ça c'est une manière d'aborder la langue qui n'est pas la nôtre. Dans la mondialité, la langue est un outil qui est complètement ouvert, qui est au service d'un imaginaire et que l'imaginaire nourrit. Et aucune langue ne peut vivre sans les autres. On s'aperçoit que la domination actuelle de l'anglais fait que l'anglais aujourd'hui a perdu toute l'épaisseur de la langue de Shakespeare, avec les profondeurs, les ombres, les obscurités, les tressaillements, le poétique extraordinaire, et que à force de dominer et de faire taire les autres, la langue s'appauvrit. Donc nous sommes dans une réalité où toutes les langues doivent être sauvées, toutes les langues font partie de notre imaginaire. Et en ce qui concerne l'écrivain, il n'y a plus d'absolu linguistique. C'est-à-dire que ce que l'écrivain a à faire aujourd'hui, ce n'est pas défense et illustration de la langue, mais dans la langue, de produire son langage. Et produire son langage, c'est véritablement avoir le désir imaginant de toutes les langues du monde, n'en oublier aucune. C'est-à-dire qu'on ne les connaît pas toutes, mais on les devine, on les entend, on les convoque, on les invoque. Et avec cette invocation, on construit une approche très libre, très particulière, complètement bouleversante, dans la langue qui nous est donnée. Donc le langage est très important parce que ça nous libère des absolus linguistiques.
Vous avez forcément suivi, Patrick Chamoiseau, les récents débats autour de la francophonie, l'opposition à ce terme-là et à ce que véhicule la langue française comme arme de domination d'un Alain Mabankou. Encore sur le site d'AOC, on pouvait lire hier un article de la sociologue Aoutar Archi qui dénonce la distinction entre des auteurs dits français et des auteurs dits francophones. Quelle est votre position par rapport à ça?
Moi, je me suis toujours tenu très éloigné de cette histoire.
J'ai bien vu, c'est bien pour ça que je vous pose la question.
Cette histoire de francophonie. Moi, je pense que la langue a perdu de son importance. La langue ne crée plus de fraternité.
Quelle qu'elle soit, ou la langue française?
Toutes les langues. Aucune langue ne crée de fraternité. Ce qui crée les fraternités, ce sont les structures d'imaginaire. Alors, c'est vrai que le fait que j'écrive en français aujourd'hui, me rend solidaire de tous ceux qui, dans le monde, écrivent en français. Et c'est vrai que ça fait une circulation. Mais si vous prenez simplement le seul critère de la langue, vous pouvez mélanger des torsions et des serviettes. Les fraternités, aujourd'hui, sont données par des structures d'imaginaire, c'est-à-dire le rapport que l'on a à la diversité du monde, la rencontre des cultures, le phénomène relationnel. Pour bien expliquer, je suis plus proche aujourd'hui de Garcia Marquez qui écrit en espagnol que d'un écrivain français. Et je suis plus proche de n'importe quel auteur anglophone de la Caraïbe que d'un écrivain français. Pourtant, c'est pas les mêmes langues, mais ce sont des structures d'imaginaire, parce que Garcia Marquez, ou comme n'importe quel auteur créolophone ou anglophone, a les mêmes structures, le génocide amérindien, la présence de la traite, la colonisation, un regard très particulier sur le monde, qui crée une fraternité qui va au-delà des langues, mais qui va aussi au-delà des marqueurs identitaires traditionnels que sont le territoire, que sont le dieu, ou que sont la couleur de peau. Je suis plus proche de n'importe quel écrivain blanc de la Caraïbe que d'un écrivain africain, même si ma peau me donne des solidarités évidentes avec les écrivains de l'Afrique et avec l'Afrique. Donc cette nouvelle complexité relationnelle, il nous faut la penser, il nous faut l'organiser.
Il sera question de cela et de beaucoup d'autres choses encore au Festival Étonnant Voyageur tout le week-end. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Patrick Chamoiseau. France Culture est partenaire du Festival, vous le savez, il sera aussi du voyage, car les producteurs sont prêts à braver les grèves de transport comme vous, qui s'annoncent depuis hier pour arriver jusqu'à Saint-Malo. Deux émissions auront lieu en direct et en public du Palais du Grand Large, Rotonde Surcouf, Le Temps des Écrivains par Christophe Onodibio et Deux Causes à Effet par Aurélie Luneau, à laquelle vous participerez, Patrick Chamoiseau. Le Temps des Écrivains, ce sera en direct et en public tout à l'heure à 17h avec David Van, et à 18h15, enregistrement de l'émission d'Aurélie Luneau en public, diffusé bien sûr demain à 16h, L'avenir de l'homme ou la vie sauvage. Vous participerez, Patrick Chamoiseau, à cette émission en compagnie de Stéphane Durand. On va se quitter avec le choix musical qui est le vôtre, Patrick Chamoiseau. Vous avez choisi Tabou Combo, New York City. Juste un mot sur ce choix musical.
Oui, j'en ai fait une analyse dans la matière de l'absence qui a été publiée au Seuil. Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, je pense qu'on a véritablement une narration langagière absolument étonnante, et si je pouvais écrire comme ça dans toutes les langues qui me sont données, je serais très heureux.
Tabou Combo, merci à vous d'être venu.
Trouver mon pays loin de ma terre natale, loin de toute affection, mon affaire plus et monde. Travaille toute la journée, c'est le plus paysage. Puis j'en peux me tourner dans mes. Trouver mon pays loin de terre natale,
loin de toute affection, mon âme est brisée, mon travail toute la journée, c'est le plus pays ça, que j'en fais me donner dans le pays.